Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Content de vous retrouver pour ceux qui nous rejoignent sur Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse. Et je suis actuellement dans nos studios de Rieux-Volvestre avec monsieur Éric Farabod, qui est délégué RTE Sud-Ouest. Monsieur Farabod, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Farabod, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que RTE suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations par rapport à la situation énergétique sur notre territoire national. Alors, pour commencer, on va resituer un petit peu ce qu'est RTE, quel est son métier.
Alors, RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Nous acheminons l'électricité depuis les zones où elle est produite, dans des centrales ou sur des fermes éoliennes, par exemple, vers les zones de consommation, les grandes villes, mais aussi tout le territoire français. C'est le transport qui est fait avec des lignes à haute tension. Et nous la livrons aux distributeurs d'électricité, par exemple Enedis, qui l'achemine ensuite jusque chez les particuliers et dans les petites entreprises. Donc finalement, les clients de ce transport, ce sont d'une part les producteurs qui sont connectés à notre réseau et les grands consommateurs et les distributeurs à qui nous acheminons cette électricité pour qu'ils puissent la répartir jusque chez tout un chacun.
Producteur, en fait, ça correspond à plusieurs types de production, c'est-à-dire que vous avez les grosses productions nationales comme les centrales nucléaires, comme les usines à charbon, les usines à gaz. Vous avez aussi plein de petits producteurs comme sont les particuliers avec des éoliennes privées ou alors des panneaux photovoltaïques.
Tout à fait. Donc les plus grands sites de production comme les centrales nucléaires, les barrages, même des cycles combinés au gaz, des centrales au gaz, sont connectés directement à notre réseau. Des grands parcs éoliens aussi, ou des grandes fermes solaires. Mais c'est vrai que sur les productions d'énergie renouvelable plus diffuses, plus petites éoliennes et petits panneaux solaires, ils sont connectés au réseau de distribution, et cette électricité peut remonter vers le réseau de transport pour être mise en commun et couvrir ainsi l'ensemble de la consommation française.
Donc globalement, si je résume un petit peu, vous êtes le grossiste de l'électricité en France.
Oui, on peut le dire ainsi, on peut dire aussi ce sont les autoroutes de l'électricité par rapport aux réseaux départementaux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la fonction d'acheminement, nous sommes responsables de superviser qu'à tout instant, à chaque seconde, il y a bien exactement la quantité de production nécessaire pour satisfaire la consommation. Pourquoi ? Parce que l'électricité ne se stocke pas. Et donc, c'est grâce à cette vision globale nationale que nous pouvons ajuster à chaque instant la production pour qu'on satisfasse la consommation et toutes ces variations. Et cela nous donne aussi la possibilité d'examiner comment ça peut se passer dans le futur. Donc, on fait beaucoup de prévisions et de prospectives pour voir si nous aurons assez de production pour satisfaire la consommation aux différentes échéances de temps.
On y reviendra un petit peu tout à l'heure au fil de ces entretiens parce que je sais qu'il y a eu une étude qui a été menée sur du long terme pour se projeter jusqu'en 2050, on en parlera un petit peu après. Qui sont vos clients précisément ?
Alors, essentiellement, notre client, ce sont les distributeurs, donc j'ai cité Enedis, mais il y en a d'autres, il y a aussi des entreprises locales de distribution. C'est eux qui, finalement, contribuent à la recette de RTE en matière de transport d'électricité et ensuite, eux, livrent aux particuliers. Par contre, il y a aussi quelques grands sites industriels qui se connectent directement en très haute tension. Donc ceux-là sont nos clients directs, mais ils ne sont pas majoritaires en termes de volume.
Donc c'est ça, vous acheminez en fait la matière première qui est du courant électrique à ces grands distributeurs et c'est eux qui sont en relation avec les entreprises, avec les particuliers et qui vont facturer ces entreprises et ces particuliers.
Tout à fait. Et à la fin, la facture globale, elle prend en compte la totalité, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie, le coût de l'énergie, le coût du transport, le coût de la distribution. Nous, concernant le transport, nous représentons à peu près 10% de la facture des consommateurs.
Alors ça, c'était pour la partie client. Maintenant, vous êtes financé comment ? Vous êtes une entreprise privée ? Vous êtes une entreprise d'État ?
Alors c'est un service public qui est de fait un monopole parce qu'il y a un seul réseau sur le territoire français, mais un monopole qui est régulé. Ça signifie que les tarifs que nous pratiquons ne sont destinés qu'à couvrir strictement nos coûts. Et c'est la Commission de régulation de l'énergie qui s'assure d'établir ces tarifs en fonction des charges que nous avons, à savoir les charges qui sont nécessaires pour adapter et développer le réseau, pour l'entretenir, pour rémunérer le personnel, etc.
On parle depuis quelque temps de cette régulation. Il y a eu pas mal de discussions à l'Assemblée nationale d'ailleurs, concernant le fait que ces tarifs étaient imposés, entre guillemets, au niveau européen.
Alors c'est là un autre sujet, puisque je pense que dans ce débat, il s'agit plus du tarif de la production d'énergie, donc qui ne concerne pas directement RTE, puisque nous, c'est uniquement le transport. Et effectivement, dans les coûts de production d'énergie, des débats sont en cours pour voir quel est leur mécanisme de formation et en particulier traiter la question qui en ce moment préoccupe nombre d'acteurs économiques, qui est le fait que, par construction, ce coût de l'électricité sur les marchés de gros européens finit par dépendre directement de celui du gaz. Or, comme le coût du gaz a fortement augmenté, eh bien aujourd'hui, les prix de l'électricité sont particulièrement élevés. Mais il s'agit là bien d'un coût de l'électricité en termes de production de cette électricité, non pas de transport.
De transport, oui. Aujourd'hui, en France, quelle est la répartition de l'énergie produite ?
Alors, aujourd'hui, en France, et comme de longue date, hein, l'énergie produite est essentiellement d'origine nucléaire. Alors, la part de cette production nucléaire a un petit peu baissé ces dernières années. On est plutôt maintenant de l'ordre de 2/3, un peu plus de 2/3, alors qu'on avait atteint jusqu'à 80%. Et d'un autre côté, la production des énergies renouvelables s'est fortement développée. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 22,5% de production d'énergie renouvelable. Il faut voir que dans le même temps, les centrales au charbon ont, pour la très grande majorité d'entre elles, été fermées, ce qui contribue à décarboner encore un peu plus la production d'électricité, qui, rappelons-le, est structurellement peu carbonée en France du fait de cette production nucléaire et renouvelable prépondérante.
Et sur la consommation d'énergie au niveau national, il y a une grosse partie encore qui est sur des énergies fossiles. Et je crois que c'est 25% pour l'électricité.
Alors, si on regarde cette fois-ci non pas seulement le secteur électrique, mais bien toutes les énergies consommées en France, aujourd'hui, effectivement, avec l'énergie consommée notamment dans les transports, dans le chauffage, etc., dans les bâtiments, eh bien, les 2/3 de cette énergie en France est encore d'origine fossile, c'est-à-dire essentiellement du gaz et du fioul. Et la part de l'électricité aujourd'hui ne représente que 25%, un quart de cette énergie consommée en France. Or, un enjeu fondamental, c'est d'aller vers la décarbonation à l'horizon 2050. Et à cet horizon-là, pour s'affranchir de l'utilisation de fioul et de gaz, il est indispensable d'une part de réduire globalement la consommation d'énergie, donc faire dans la sobriété. Il s'agit, selon la stratégie nationale bas carbone, de réduire de 40% notre consommation totale d'énergie, et puis de transférer le résiduel, en quelque sorte, fioul et gaz, vers une énergie décarbonée qui est soit de l'électricité, soit des énergies vertes autour de la biomasse. Tout ça fait que, à long terme, la consommation d'électricité occupera une place beaucoup plus importante. On a dit un quart aujourd'hui, eh bien, à l'horizon 2050, ce sera plus de la moitié.
C'est ça, 55% énergie. Je crois avoir vu quelque part. Ouais. 55% d'énergie électrique, d'origine électrique pour vivre au quotidien.
Tout à fait.
Alors, aujourd'hui, vous m'avez dit, en France, on est sur du nucléaire, sur des énergies produites à différents endroits du territoire. Tout ça, c'est connecté. C'est vous qui gérez ces interconnexions entre différentes sources d'énergie. Pourquoi est-ce qu'on craint des ruptures d'électricité, des ruptures énergétiques en France ?
Alors, la situation actuelle est une situation plus conjoncturelle. Ce dont nous parlions tout à l'heure, c'était vraiment une trajectoire de long terme. Là, il se trouve que conjoncturellement, cette année, plusieurs phénomènes se sont cumulés. Le premier d'entre eux, c'est la crise sur les marchés du gaz, qui a commencé avant même d'ailleurs la guerre en Ukraine. Avec la reprise économique au niveau mondial, les prix du gaz ont fortement augmenté et il y a eu une raréfaction de l'accessibilité au gaz qui a été renforcée avec la crise en Ukraine. Et la plupart des pays européens qui utilisent beaucoup plus que nous le gaz sont de fait en difficulté pour leur approvisionnement en gaz. Donc ça, c'est un premier élément de crise qui est plutôt d'origine européenne. Enfin, en tout cas, pas d'origine européenne, mais qui se traduit à l'échelle européenne. Et puis, une situation plus spécifique à la France, qui est que le parc de centrales nucléaires est en grande partie en maintenance et à l'arrêt depuis plusieurs mois, et en particulier à la fin de l'été, à peu près la moitié de ces centrales étaient arrêtées pour maintenance. EDF, le producteur, enfin l'exploitant de ces centrales, a un programme de remise en service progressive de ces centrales jusque le début de l'année 2023. Mais cette situation est très atypique et en tout cas très en retrait par rapport à ce que nous avions les années précédentes. Quand on cumule ces deux effets, crise du gaz et difficulté sur le nucléaire, eh bien, La question qui se pose, c'est aura-t-on suffisamment de production pour satisfaire la consommation à tout instant pendant cet hiver ? C'est ce que nous regardons à RTE et nous suivons de près.
Vous êtes capable de mesurer quasiment en temps réel la demande et d'ouvrir des vannes ou de demander à EDF ou à d'autres peut-être d'ouvrir des vannes pour pouvoir répondre à la demande ?
Alors ce ne sont pas véritablement des vannes, mais l'image est là. Ça c'est pour la question du temps réel, mais le temps réel ça se prépare à l'avance. C'est-à-dire que on étudie sur plusieurs mois, plusieurs années même, quelle est la disponibilité de cette production, quels vont être les niveaux de consommation, pour pouvoir ensuite ajuster en temps réel, mais ce n'est pas au dernier moment qu'on s'y prend. Donc c'est ça qu'on regarde de près et qui nous a amené à, dès le mois de septembre, émettre une forme d'alerte, enfin une vigilance renforcée sur cet hiver, en analysant un grand nombre de scénarios possibles, puisque tout cela est quand même soumis à beaucoup d'incertitudes. Comment va évoluer la consommation ? Les centrales nucléaires vont-elles revenir à temps ? À la fin de l'été, on avait une sécheresse qui faisait que les barrages étaient plutôt bas. Donc, est-ce qu'ils se remplissent ? Oui, c'est le cas. Heureusement, maintenant, ça va mieux. Comment vont évoluer aussi les échanges européens ? Et enfin et surtout presque, quel temps fait-il ? Parce qu'en fait, la consommation d'électricité dépend énormément de la température à cause du chauffage électrique, sachant que si l'hiver est doux, il y aura moindre recours au chauffage électrique. Si l'hiver est rude, on peut avoir une vague de froid qui fait, dans ces cas-là, vraiment monter très fortement la consommation. Il faut savoir qu'à l'échelle de la France, un degré de température en moins, de température extérieure en moins, ça représente la production, enfin, ça représente une augmentation de consommation d'électricité à cause du chauffage qui est équivalente à peu près à la production de 2 réacteurs nucléaires. Donc c'est assez considérable.
Le fait que ces réacteurs nucléaires soient en maintenance, réparation, et ça n'a pas été anticipé, ça ?
Alors plusieurs aspects se sont cumulés. Il y a une partie qui est tout à fait anticipée, c'est que les réacteurs qui ont été construits depuis les années 70, entre les années 70 et l'approche des années 2000, arrivent pour un grand nombre d'entre eux à leur échéance de visite décennale, qu'on appelle parfois la décennale de 40 ans, qui correspond un peu à la durée de vie initiale qui était envisagée pour ces réacteurs et qui, pour être prolongée, nécessite une maintenance plus importante. Donc ça fait que sur les années en cours, il y a plus d'opérations de maintenance qu'à l'accoutumée. Deuxième élément, il y a eu la crise du Covid qui a beaucoup perturbé les chantiers des entreprises qui intervenaient sur la maintenance de ces réacteurs. Et donc, il y a eu du retard dans ces maintenances liées directement à la crise Covid, qui se résorbe peu à peu, mais c'est quand même une grosse organisation. Et puis enfin, le troisième aspect, c'est qu'il a été, donc là, de manière encore moins prévisible, il y a eu ce problème dit de corrosion sous contrainte, qui affecte certaines parties des installations, et qui nécessite des contrôles supplémentaires ou des maintenances supplémentaires, alors qu'ils se font bien, mais qui nécessitent là aussi des arrêts de centrales. Donc ça fait quand même trois aspects, disons, convergents, qui expliquent cette situation conjoncturelle particulière et particulièrement difficile pour le parc, mais qui, là encore, devrait se résorber dans les mois ou en tout cas dans les 1 ou 2 ans qui viennent.
Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, un des gros problèmes de l'électricité, c'est qu'elle ne se stocke pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées sur le stockage de l'électricité, sur l'accumulation, je ne sais pas, de superpiles géantes, j'en sais rien ?
Tout à fait, parce que avec le développement des énergies renouvelables qui ont une production très variable, on parlait de la météo tout à l'heure en faisant référence à la température, mais il faut penser aussi au vent qui est très variable, au soleil qui est très variable, et donc toutes ces énergies renouvelables fluctuent en fonction de ces éléments. Et donc il y a forcément un intérêt important à pouvoir stocker leur production au moment où elle est supérieure, et puis la déstocker à d'autres moments. Aujourd'hui, on a une forme de stockage d'électricité qui est efficace, mais qui est difficile à développer plus avant. C'est celui grâce aux barrages hydrauliques. En fait, on utilise des pompes pour remonter l'eau. Et donc, sous cette forme-là, finalement, quand on a beaucoup d'électricité, on peut re-remplir les barrages pour les revider au moment où on a besoin de plus d'électricité. Donc ça, c'est très efficace, mais on ne va pas construire de nouveaux barrages dans les années à venir. Donc, les autres alternatives, c'est le développement des batteries. Alors, il y a les batteries qu'on connaît sur les véhicules électriques, qui sont des petites batteries, mais on peut aussi développer des batteries de taille plus importante, spécifiquement dédiées au stockage d'électricité. Donc ça, c'est des expérimentations et même c'est opérationnel, mais c'est pas encore très développé en termes de volume industriel. Et puis, il y a aussi, mais là, c'est plus du moyen long terme, la possibilité d'utiliser de l'hydrogène, c'est-à-dire produire de l'hydrogène avec de l'électricité que l'on peut éventuellement, alors soit utiliser comme hydrogène, hein, déjà pour, disons, venir se substituer aux combustibles fossiles, gaz ou fioul, mais aussi peut-être pour pouvoir, à partir de cet hydrogène, recréer de l'électricité. L'avantage de ce vecteur hydrogène, si on peut dire, c'est qu'on peut le stocker beaucoup plus longtemps. Parce qu'une batterie, ça se décharge en 24 heures ou quelques jours au plus, mais alors qu'on peut stocker sous forme de gaz vert ou d'hydrogène des quantités plus importantes. Ça, c'est bien si on a des périodes sans vent ou des périodes de canicule plus importantes, on peut arriver à utiliser ces dispositifs de manière performante.
Pourquoi cette question ? Parce qu'on nous a parlé plusieurs fois qu'il y avait des craintes donc, de rupture d'énergie à certains moments, en particulier cet hiver, c'est-à-dire la période qui va du mois de décembre jusqu'au mois de février-mars à peu près. Et vous avez mis en place justement un système d'alerte spécifique par rapport à ça. C'est un système qui s'appelle EcoWatt, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, des craintes de rupture, je ne dirais pas tout à fait. On ne craint pas un blackout ni une rupture sur le réseau. Ce que nous observons, donc, c'est a-t-on suffisamment de production pour couvrir la consommation ? Quand on regarde tous les paramètres que j'ai dit là, sur la consommation, la production, etc., on constate que dans la grande majorité des situations, oui, on a suffisamment de production pour couvrir la consommation. Néanmoins, il pourrait y avoir des scénarios plus extrêmes où cette production deviendrait insuffisante. Ces scénarios extrêmes, on l'aura compris, c'est en même temps vague de froid, retard sur le nucléaire ou bien problème pour importer de l'électricité. Dans ce cas-là, l'important, ce sera d'alerter pour, dans un premier temps, solliciter des baisses de consommation supplémentaires, ce qui est quand même le meilleur moyen d'éviter de recourir à des coupures.
Ouais, la coupure étant vraiment, comme vous disiez, le cas extrême, si on n'arrive pas à faire autrement. Les pics de consommation, c'est quoi justement ?
Alors les consommations les plus fortes, et ça se répète tous les jours, hein, c'est la période du matin, disons entre 8h et 13h, et la période du soir entre 18h et 20h. Le matin, on comprend, hein, tout le monde se réveille, l'activité reprend partout dans le pays. Et puis le soir, entre 18h et 20h, eh bien, il y a une partie, déjà le soleil se couche, on allume l'éclairage, une partie des gens rentrent chez eux, donc peuvent mettre en marche de l'électricité pour l'utilisation de la cuisson ou autre. Pour autant, les bureaux sont encore allumés pour une partie des entreprises, les commerces également, les restaurants, etc. Donc, cette pointe de 18h à 20h est le moment où la consommation est la plus élevée. C'est pour ça que si on a des périodes tendues, les alertes porteront très probablement sur ces périodes 8h, 13h ou 18h, 20h.
Donc, c'est ça, le principe d'EcoWatt, c'est de prévenir quelques jours avant en disant attention, dans deux jours, on risque d'avoir une très forte demande d'électricité à cause de la vague de froid, par exemple. Donc, on demande aux gens de bien vouloir faire attention et d'être sobres dans leur consommation.
Tout à fait. La sobriété, c'est vraiment le mot-clé avant tout risque de coupure. Je dirais déjà, c'est valable tout au long de l'hiver, puisque cette situation tendue, elle est vraie tout au long de cet hiver. Donc, tout ce qu'on peut faire en matière de sobriété en conservant un confort correct. Mais par exemple, toute cette campagne de sobriété autour de se chauffer à 19 degrés, faire attention à l'éclairage, aux appareils en veille, etc., ça va dans le bon sens pour s'assurer qu'on a un équilibre du système dans la durée. Et puis, ces jours d'alerte EcoWatt particulièrement tendus, là, ce qu'on demandera, c'est pour dans trois jours, faites un effort supplémentaire, cette fois-ci en étant vraiment, peut-être non seulement se chauffer à 19 degrés, mais voire baisser encore un peu ce jour-là, le temps que passe ce moment plus tendu.
J'ai vu que vous aviez cité dans un magazine toulousain que cette tension sur le réseau, je vais l'appeler comme ça, permettait en fait une prise de conscience sur cette notion de sobriété énergétique, voire écologique.
Oui, clairement cette crise, bon, c'est d'abord une crise qui est difficile pour une grande partie de nos concitoyens, et notamment je pense à tout le secteur économique, parce que c'est d'abord une augmentation des prix, et on sait que des entreprises réduisent leur consommation justement à cause de cela. Néanmoins, si on s'efforce de chercher un aspect plus constructif à ce que nous vivons en ce moment, Eh bien, en effet, on a rarement autant parlé d'énergie et de sobriété dans les médias et dans le débat public. Or, c'est un point clé de tous les enjeux de transition énergétique pour l'avenir et les décennies à venir. Donc, utilisons aussi cette crise énergétique pour identifier ce que l'on peut faire, chacun à son échelle. Donc, c'est vrai pour les particuliers, mais c'est vrai aussi pour les entreprises, pour les collectivités. Et nous portons, en tout cas avec RTE, justement des démarches d'engagement à la sobriété au travers de chartes EcoWatt, par exemple, qui permettent à tout un chacun de contribuer à cette solidarité nationale autour de la question de l'énergie et aller vers un système énergétique plus neutre en carbone.
Merci pour la transition, parce que justement, il y a eu un an pratiquement, un rapport qui a été émis par RTE sur la projection dans 2050, sur ce que peut être le monde de l'énergie en 2050. Et il y avait trois leviers. Le premier, c'était la sobriété, dans laquelle l'énergie qu'on consomme pas, c'est celle qui est déjà préservée. La deuxième, c'est avoir des matériels plus performants en termes de consommation énergétique. Et la troisième, c'est comment peut-on modifier la structure de notre production énergétique. Par rapport à ces trois leviers, pour vous, RTE, comment vous avez mené cette enquête? Qu'est-ce qui a été projeté? Qu'est-ce que vous voyez demain?
Alors, cette étude qui s'appelle Futur énergétique 2050, que RTE a organisée avec énormément de parties prenantes. D'abord, c'est un travail de 2 ans qui a eu lieu en grande concertation avec des filières industrielles, mais aussi des associations, des institutionnels. Il y a eu plus de 120 organismes représentés justement pour qualifier les hypothèses prises dans ces scénarios. Et donc, il n'y a pas un scénario RTE recommandé, mais il y a plutôt une analyse de différents scénarios possibles sur lesquels nous donnons un éclairage avec comme condition que ces différents scénarios permettent, un, d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, et deux, d'assurer une alimentation d'électricité pour tout le monde dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Et ce qu'on démontre dans cette étude, c'est que c'est possible, on peut atteindre cette neutralité carbone, mais cela nécessite des efforts dans de nombreux domaines. On l'a dit, des efforts d'efficacité énergétique, voire de sobriété, des efforts de développement des énergies renouvelables, parce que même si on fait de nouvelles centrales nucléaires, la capacité à réaliser ces centrales d'ici l'horizon 2050 ne peut pas dépasser à peu près 50%. Donc ça veut dire que dans tous les cas, il faudra beaucoup d'énergie renouvelable. Ces énergies renouvelables, ça peut être un défi, notamment construire des parcs offshore, installer un volume très significatif de solaire, l'éolien terrestre qui, par ailleurs, pose parfois des problèmes d'acceptabilité, ne peut pas être complètement exclu non plus. Donc, c'est vraiment des défis importants. Et puis, le gouvernement, sur la base de ces scénarios, envisage la réalisation de nouvelles centrales nucléaires en remplacement des anciennes qui ont vocation forcément tôt ou tard à être arrêtées, et bien là aussi, c'est un défi industriel et technologique que de les réaliser dans les délais impartis et avec les volumes attendus.
Il y a 6 scénarios qui ont été créés en fait, 6 scénarios avec à chaque fois pour nos auditeurs, la partie 100% énergie renouvelable jusqu'à la partie 50% comme vous disiez énergie nucléaire et l'analyse, l'étude de ce 6 mix énergétique, on va l'appeler comme ça, à chaque fois qui a été évalué en termes de coûts, en termes de réalisation et en termes de capacité de production, c'est ça?
Oui, encore une fois, l'enjeu c'était d'éclairer les décisions et non pas de faire des recommandations directes. Donc on a regardé ces scénarios sous tous les aspects. Donc économique, oui, certains sont un peu plus chers, enfin en tout cas plus coûteux pour la collectivité que d'autres. En l'occurrence, ce qu'on a constaté, c'est que les coûts d'investissement, que ce soit nucléaire ou énergie renouvelable, se rapprochaient assez fortement. Ce n'est pas ça qui était discriminant. Par contre, ce qui peut être différenciant à un moment, c'est si on s'oriente vraiment vers des taux de NR de 80-100%.
NR, énergie renouvelable.
Pardon, oui, énergie renouvelable, autant pour moi. Donc, avec vraiment des proportions très élevées d'énergie renouvelable, il faut développer de manière très importante ces fameux moyens de stockage dont vous parliez tout à l'heure, voire des centrales qui peuvent compenser les fluctuations de ces moyens de production éolien et solaire avec de l'hydrogène, avec du gaz vert ou autre. Et ça, à un moment, ça représente un coût d'investissement important. C'est pour ça que dans l'analyse, effectivement, les scénarios nouveaux nucléaires sont un petit peu plus performants au plan économique pur. Après, il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. On a pris aussi beaucoup de variantes selon l'évolution des prix du solaire, de l'éolien, etc., qui montrent que, sans inverser les scénarios, on s'échelonne vers des variations de coûts qui vont de plus 0%, enfin, c'est-à-dire les mêmes coûts qu'aujourd'hui, à jusqu'à 30% de plus pour le système électrique à l'horizon 2050.
Mais parce que quand même, l'objectif à l'horizon 2050, c'est 0% d'énergie fossile.
Ça, c'est vraiment l'hypothèse de référence. C'est celle qui est inscrite dans la stratégie nationale bas carbone, donc qui va être retravaillée là, dans le cadre de la stratégie française énergie-climat et qui va aboutir aussi à des débats parlementaires et une loi. Donc c'est l'hypothèse qui a été mise en entrée, zéro émission carbone nette à l'horizon 2050. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un tout petit peu d'émissions de carbone, mais elle doit être compensée par des puits de carbone qui viennent annuler le bilan global carbone de la France.
Dernière question, si on veut 0% énergie, émissions fossiles en 2050, ça veut dire qu'on va tous rouler en voiture électrique. Si on roule tous en voiture électrique, on va pomper énormément sur le réseau.
Alors, ça veut dire qu'on va changer d'usage. Donc, le véhicule électrique, certes, va se développer fortement. On a estimé les volumes associés. On arrive de l'ordre de peut-être 10% de l'électricité utilisée pour ce transport. Ce n'est pas le seul vecteur, hein. Il peut y avoir aussi du gaz vert, de l'hydrogène ou autre. Donc oui, il y aura plus d'usage de véhicules électriques. Pour autant, c'est de nombreux usages qui doivent aller vers l'électricité et donc pour parvenir à cette suppression de l'utilisation du fioul et du gaz, il faut réorganiser en gros l'ensemble des usages de l'énergie avec exclusivement de l'énergie décarbonée, soit électricité, soit énergie verte.
Monsieur Éric Farabeau, je rappelle que vous êtes délégué RTE Sud-Ouest et je vous remercie d'avoir passé du temps à avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une excellente journée et puis surtout un bel hiver.
Merci beaucoup.